Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 37e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous recevons Louise Merzeau, médiologue, enseignante-chercheure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Louise Merzeau, bonjour. On va parler des usages liés au numérique. On entend notamment parler d'usagers numériques. Qu'en est-il vraiment ?
D'abord, il faut peut-être revenir un petit peu sur la définition simplement de l'usager et puis voir ensuite en quoi l'usager numérique peut-être présenterait des spécificités. La question de l'usage, en fait, peut être définie par rapport à trois notions qui sont proches, qui sont sans doute pas tout à fait synonymes, mais qui permettent un peu d'approcher justement ce que c'est que l'usage. Il y a d'abord la notion de la réception. Est-ce que l'usager, c'est d'abord un récepteur? Ensuite, il y a la notion de l'utilisation. Être un usager, c'est en général utiliser. Reste à savoir utiliser quoi. Et puis, dernier degré, sans doute un peu plus proche justement de la complexité de l'usage, la notion de l'appropriation.
Et qu'est-ce que la réception?
Alors la réception, ça renvoie là à des théories déjà un petit peu anciennes, qu'on appelle justement les théories de la réception, qui sont surtout intéressantes parce qu'elles ont témoigné à un moment donné de la recherche d'un recentrage de l'émetteur, qui était le seul pôle auquel on s'intéressait auparavant, vers celui du récepteur, en se demandant non seulement ce que les utilisateurs des produits culturels recevaient, mais aussi comment ils recevaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les médias qu'ils consommaient. Donc c'était déjà une première étape dans ce recentrage vers l'usager qui était intéressante. Pour autant, la plupart de ces théories maintiennent quand même une vision très bipolaire entre justement l'émetteur et le récepteur, sont très centrées sur un message très, très clairement identifiable. Et finalement, ce sont des théories qui dessinent plutôt une pensée de l'audience plutôt qu'une pensée de l'usage. Donc ça a produit beaucoup de résultats intéressants, mais qui sans doute ne suffisent pas à cerner exactement ce qu'on peut appeler l'usage, et a fortiori l'usager numérique.
Et pour ce qui est de la notion d'utilisation ?
Cette notion-là, elle m'intéresse dans la mesure où elle va réintroduire que les recherches sur l'audience laissaient un petit peu de côté, c'est la dimension technique. Puisque si on définit l'usager comme utilisateur, ça veut dire que c'est l'utilisateur, en général, d'un dispositif, d'un objet, d'un outil. À ce moment-là, on voit qu'il y a un déplacement du paradigme du message vers plutôt la prothèse technique. Donc là, on va trouver toutes sortes de travaux qui vont s'intéresser plutôt à l'interface homme-machine. La question des compétences, des savoir-faire, on s'intéresse plus à ce moment-là à un savoir procédural de l'usager. Donc on avance encore davantage vers une dimension plus active de l'usager, comme quelqu'un qui sait faire quelque chose.
Donc il faut plutôt s'intéresser à la question de l'utilisation.
Disons qu'il y a plusieurs niveaux, effectivement, autour de cette question de l'utilisation. Il y a un premier niveau qui n'est évidemment pas le plus intéressant, qui est celui simplement de l'équipement. Mais je pense que c'est important, justement, à ce sujet, de signaler le danger qu'il y a à limiter l'usage en termes d'équipement. C'est-à-dire qu'avoir un certain nombre de machines, un certain nombre d'outils, un certain nombre d'instruments, mesurer l'équipement, par exemple, d'une population, ou d'une école, ou d'une classe, en tel ou tel type d'appareil, évidemment, c'est un niveau important, mais c'est tout à fait insuffisant pour véritablement évaluer s'il y a usage ou pas et de quelle nature est cet usage. Alors, il y a ce premier niveau de l'équipement. Et puis donc, l'échelon suivant, toujours dans cette thématique de l'utilisation, donc c'est plutôt l'échelon du savoir-faire, du savoir procédural qui nécessite là un apprentissage et qui va poser à ce moment-là aussi la question des modes d'emploi et des discours d'accompagnement de l'usage.
Pouvez-vous préciser cette question des modes d'emploi ?
Alors là, il y a beaucoup de choses intéressantes à signaler et à observer, dans le fait notamment que l'offre industrielle diffuse de moins en moins de modes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une rétention d'informations justement sur les manières d'utiliser, mais aussi en particulier les manières de réparer, les manières d'utiliser des machines plus anciennes. Donc là, on voit que toute cette question du savoir propre à l'utilisateur est aussi un enjeu politique, industriel et véritablement culturel.
Mais ce problème de rétention d'informations sur les matériels est-il vraiment spécifique au numérique ?
Dans le domaine justement du numérique, c'est tout à fait criant, vu l'obsolescence programmée des logiciels et des matériels, il est impossible, si on s'en tient uniquement à l'information officielle, d'avoir des renseignements sur la manière d'utiliser un ancien ordinateur ou des logiciels un petit peu anciens. Donc la seule manière d'avoir ces informations maintenant, c'est d'en passer par des réseaux d'utilisateurs, des réseaux d'usagers. Il n'y a pas seulement la question du savoir utiliser, savoir se servir d'un outil, il y a aussi la question de la mémoire d'usage.
Que faut-il entendre par mémoire d'usage ?
C'est le fait justement que notre rapport aux outils techniques, ce n'est pas un rapport seulement utilitaire, utilitariste, et ce n'est pas un rapport qui se joue uniquement au présent. On a tous évidemment des outils d'âge différents. Et cette mémoire justement technique est aussi une manière pour nous de nous identifier, de nous positionner dans la société, dans une génération, de nous situer. Et c'est en fait une violence extrême qu'on fait aux usagers, cette injonction qui leur est faite quasiment quotidiennement maintenant, de devoir en quelque sorte oublier ce qu'ils savaient faire la veille pour réapprendre quelque chose. Mais évidemment, un apprentissage ne peut pas se faire à ce rythme-là. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu effectivement de continuité culturelle, de transmission. Parce que après, c'est aussi la question qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, à nos élèves, à nos étudiants, etc. Dans l'usage, il y a cette dimension de mémoire.
Et comment évoluent les enjeux autour des usagers, compte tenu de l'évolution actuelle des technologies de l'information et de la communication ?
Là, très clairement, on est à un tournant, dans la mesure où l'usager donc, prend une part de plus en plus active. Beaucoup de modèles économiques anciens, que ce soit, on le sait, dans la presse, dans l'industrie musicale, aujourd'hui, c'est maintenant le monde de l'édition qui est touché de plein fouet par ces bouleversements. Tous ces anciens modèles se fissurent, sont remis en question. Donc il y a évidemment tout un enjeu de place, de force, de rapport de force, de territoire à défendre, à conquérir. Donc on est face à des situations évidemment qui vont se manifester sous forme très conflictuelle aujourd'hui, d'où cette terminologie que j'emploie moi-même avec d'autres, d'hérésie ou de criminalisation, mais c'est très frappant.
N'y a-t-il pas un paradoxe entre cette idée de criminalisation et les notions de web social et d'ouverture utilisées pour décrire les technologies de l'information aujourd'hui ?
Quel que soit, après le parti que soi-même on prendra sur ces questions, on ne peut que constater qu'on est face à ce paradoxe d'usage qui se multiplie aujourd'hui, donc en termes d'usage numérique, qui se diversifie, qui témoigne de démarches de plus en plus actives, participatives. Les outils se démocratisent, le web est dit aujourd'hui social, et donc les détenteurs des droits au sens juridique et plus largement donc les détenteurs des droits symboliques de diffusion et de production se sentent menacés pour la plupart. D'où cette crispation que malheureusement on constate, qui à mon avis est en train de prendre le pas sur des postures plus ouvertes. Et on oublie un peu justement la dimension culturelle, la dimension d'appropriation, la dimension de construction d'une culture par l'usage.
Cela veut-il dire quelque part qu'on a perdu aussi la notion du partage ?
Oui, alors l'exemple du livre est frappant par exemple. On s'interroge sur la question du prix du livre, sur les relais donc, de diffusion au plan international ou national des livres numériques, etc. On s'interroge sur les équipements, les fameuses tablettes ou les liseuses. Mais peu de gens s'interrogent, il y en a quelques-uns, mais c'est un discours qui reste très minoritaire, ou en tout cas qu'on entend moins, peu s'interrogent sur le fait que lire, par exemple, c'est pas seulement acheter un livre, c'est même pas seulement feuilleter un livre, qu'il soit de papier ou sur écran, c'est aussi, et c'est peut-être d'abord, prêter ses livres, emprunter des livres, parler des livres, annoter ses livres, etc. Garder ses livres chez soi, les transmettre à ses enfants, et ainsi de suite. Et là, on voit très bien l'usage. Et l'usage, ça n'est ni la consommation, ni la seule gestion des droits.
Mais peut-on réellement influencer les usages ?
En fait, il y a eu beaucoup de travaux faits maintenant qui ont toujours démontré que justement l'usage n'était jamais complètement prévisible ou prescriptible. On peut évidemment le contraindre dans une certaine mesure, déjà justement avec la forme même et les fonctionnalités même bien sûr des objets qui sont mis sur le marché et qui sont extrêmement contraignants. On pense aux problèmes d'interopérabilité, qu'on pense aux problèmes de connectique, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, le fait de ne pas pouvoir brancher de matériel ensemble ou de devoir justement racheter sans arrêt une nouvelle version. Donc ça, ce sont des contraintes très fortes.
Et comment mesure-t-on le processus d'appropriation ?
plusieurs chercheurs, notamment par exemple Jacques Perriot, qui a justement produit le concept de logique d'usage autour de ce constat, observent que, quelles que soient les études préalables qu'on peut faire pour lancer un nouvel objet technique sur le marché, et quel que soit même le succès que va rencontrer cet objet technique, on ne peut jamais prévoir à 100% la manière dont les gens vont l'utiliser. Et il y a de très nombreux exemples dans l'histoire de la technique qui le montrent. Le Minitel, au départ, n'était pas du tout conçu pour des messageries comme ce qui a fait en réalité son succès. L'Internet lui-même, en fait, n'était pas du tout conçu pour des applications comme celles qu'on voit aujourd'hui. Donc, on observe très régulièrement, en fait, un processus qui est à la fois un processus d'adaptation de l'usage, mais aussi de détournement, de bifurcation, qui montre que les usagers peuvent s'approprier une offre technique vraiment en la détournant à leur propre fin. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise pratique, ce n'est pas une méconnaissance du bon mode d'emploi, mais c'est véritablement un signe d'appropriation. Et très bizarrement, enfin, on peut s'en réjouir, je pense. En tout cas, dans certains cas, il s'est avéré que c'était ces usages détournés qui se sont avérés, sinon les plus intéressants, en tout cas ceux qui finalement ont produit véritablement une nouvelle logique, justement, d'usage.
Finalement, on la maîtrise très peu, la technique. Si on prend l'exemple des ordinateurs, on les utilise de manière superficielle.
Oui, alors bon, votre question appelle plusieurs remarques. Premièrement, c'est vrai que la culture technique au sens de maîtrise des outils techniques est de toute façon extrêmement peu développée parce que, là encore, elle a été totalement exclue de l'éducation générale, de l'enseignement général. Pour autant, je pense que sur la question de l'usage, justement, je crois que c'est l'usage qui fait la maîtrise technique. En utilisant les logiciels, les dispositifs, les machines, on s'en sert peut-être de manière superficielle ou mal. C'est vrai que c'est déconnecté de toute érudition technique, ça va de soi, mais les usages se développent quand même. Donc je pense que la question de la maîtrise technique, c'est pas le verrou principal, hein. Et d'ailleurs, tout le discours sur les digital natives se focalise là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous mettez un tout petit enfant devant un ordinateur, une tablette, un iPad. Alors évidemment, il sait pas tout de suite, il connaît pas toutes les fonctionnalités, mais il s'en sert, tout de suite il s'en sert. Donc le problème n'est pas là.
Alors à quel niveau se situe le problème ?
C'est plutôt d'aider les enfants, les élèves, les étudiants et
même
n'importe
les
qui, et les adultes bien sûr, et peut-être, commencer pas forcément, mais ne pas oublier effectivement les adultes, aider justement les usagers à mettre en perspective leur propre usage, avec des usages plus anciens, avec peut-être des perspectives, on ne peut pas vraiment deviner l'avenir, mais on peut quand même justement mettre en lumière les tendances, hein, et y compris sur le temps long, c'est-à-dire ne pas couper ça de la culture écrite, de la culture de l'imprimé, notre usage de la télévision, des médias de masse en général, c'est-à-dire mettre tout ça en résonance, au lieu de faire de l'usager numérique quelqu'un qui est tout seul, face à des lois qui veulent lui interdire son usage et face à une culture officielle, qui est encore celle de l'école, qui quand même tarde et peine beaucoup, on peut comprendre pourquoi, hein, mais qui peine à intégrer justement ses usages dans l'enseignement qu'elle lui donne. Donc les usages, ils se développent en douce, clandestinement, sans accompagnement, sans encadrement, sans culture, sans la moindre érudition. Et c'est ça le drame. Le drame, c'est pas que les gens n'arrivent pas à utiliser ces objets, ils les utilisent. Bien ou mal, sans doute, là n'est pas tellement le propos, en fait. Mais l'usage lui-même est analphabète, en quelque sorte. Hein, c'est un usage qui n'est pas conscient de lui-même, qui n'est pas responsable, qui n'est pas assumé, et qui, du coup, souvent, est très pauvre.
Louise Merzeau, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.